qui, nous l'avons vu la dernière fois, marque le déclin de la puissance papale romaine. D'abord à cause des difficultés internes de la papauté qui, au long de ce 14e siècle, va connaître deux choses. D'une part, ce que l'on appelle la captivité babylonienne, c'est-à-dire 70 ans où les papes vont être amenés à résider à Avignon, en quelque sorte sous le contrôle de l'État français. Cette captivité babylonienne, comme l'appelle l'Église catholique, va aboutir à un schisme qui va complètement discréditer l'Église catholique, un siècle après son apogée. Et puis, ce discrédit jeté sur l'Église catholique va entraîner des mouvements de réforme, de pré-réforme, disons, qui prépareront alors la grande réforme du XVIe siècle. Ces réformateurs avant la lettre, si vous le voulez, sont au nombre de deux. Wycliffe, d'abord en Angleterre, et puis au siècle suivant, au XVe siècle, nous aurons l'occasion de voir Jean Hus en Bohême, c'est-à-dire en Tchécoslovaquie actuelle. Donc voyons d'abord Wycliffe. Wycliffe qui est un des grands hommes de Dieu de tous les temps, et aussi donc particulièrement de ce XIVe siècle. Wycliffe est un homme qui en 1336 avait été nommé chapelain du roi d'Angleterre. Donc c'était un homme qui avait une grande culture et qui en outre était aussi professeur de théologie à la fameuse et célèbre université d'Oxford. C'était un homme qui avait donc une grande influence sur une foule de gens et qui s'est mis à réfléchir sur les avatars que connaissait l'Église catholique de son temps et au-delà de l'Église catholique de tous les temps. Et c'est pourquoi, devant le spectacle lamentable que donnait la papauté, Wycliffe est arrivé à la conclusion que la conception de l'autorité papale telle qu'on l'a trouvée dans l'Église catholique n'était pas biblique et n'était donc pas juste. Et Wycliffe a eu l'audace de proclamer haut et fort ses thèses. Et nous allons voir jusqu'où il est allé dans cette dénonciation de l'autorité du pape. En contrepartie, Wycliffe préconisait une Église pauvre, soustraite à l'influence du monde. Et Wycliffe est allé jusqu'à écrire une lettre au pape, lui demandant de renoncer à son pouvoir et à ses richesses. Inutile de vous dire que l'accueil a été plutôt frais à Rome. Cette lettre n'a pas soulevé là-bas un enthousiasme extraordinaire comme on peut l'imaginer. Wycliffe affirmait en effet que, notamment, l'Église n'avait aucun droit de posséder des biens séculiers. Et vous le savez, au XIVe siècle, c'était un des gros problèmes pour les États, notamment parce que dans certains États, l'Église possédait jusqu'à plus de 50% des terres, n'est-ce pas, des biens fonciers du pays étaient entre les mains directement ou indirectement des clercs, donc de l'Église catholique. Et Wycliffe préconisait donc que l'Église se défasse de tous ces biens-là et que la subsistance de l'Église soit assurée par l'État. Que l'État, donc, rémunère honnêtement les ministres des cultes, mais que ces derniers n'aient pas la possibilité, comme c'était le cas, d'accumuler des fortunes absolument scandaleuses, notamment au détriment des plus pauvres et des plus faibles. À partir de là, Wycliffe est allé plus loin et il s'est élevé contre les indulgences, comme le fera Luther deux siècles plus tard, parce que les indulgences, on le sait, étaient une source de revenus importante dans le cadre de l'Église catholique. L'indulgence, donc, nous en souvenons, c'était la peine temporelle qui était infligé aux pénitents après la confession auriculaire qui était obligatoire pour qu'il puisse être absous des péchés mortels. Souvenez-vous cette subtile différence que faisait l'Église et que fait toujours l'Église catholique entre les péchés véniels et les péchés mortels. Les péchés véniels peuvent être absous par une simple contrition au moment de prendre la messe, mais les péchés mortels ne peuvent être remis que s'ils ont été au préalable confessés à un prêtre qui a, en vertu des pouvoirs que le Christ a donné à ses apôtres de lier et de délier, qui seul a le pouvoir d'absoudre, n'est-ce pas, les pénitents. Il cite le texte, n'est-ce pas, de Jésus, mon résurrection, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux auxquels vous les retiendrez, ils leur seront retenus, oubliant que c'est un texte qui est donné pour chaque enfant de Dieu. Chaque fois que nous pardonnons des péchés qui ont été commis envers nous, bien sûr, on n'a pas la possibilité de pardonner les péchés qui ont été commis envers d'autres, mais si un tort nous a été commis envers nous et que nous le pardonnons, ça veut dire que ce péché-là ne sera pas imputé au coupable par le Seigneur, n'est-ce pas ? Or, l'Église catholique interprète ça comme étant quelque chose qui est du seul ressort du pouvoir du prêtre, qui donc pardonne les péchés. Mais seulement, là aussi, l'Église catholique affirme que le péché n'est pas entièrement couvert par le sang de Jésus, et que la peine éternelle l'est, mais pas la peine temporelle. Et qu'il faut une réparation pour le péché, à savoir que le péché, s'il a été cause de scandale, pour d'autres, doit être réparé, pas seulement dans ce sens qu'on essaie de compenser le tort accompli, mais il faut qu'il y ait une peine temporelle qui montre que le pécheur a vraiment péché. Et alors, cette peine temporelle, c'était, nous l'avons vu très souvent, les pèlerinages à Rome, à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis à Jérusalem. Bon, depuis la fin des croisades, c'était nettement moins facile de faire le pèlerinage à Jérusalem. Alors, il y avait une compensation, une indulgence. C'est-à-dire que le pécheur, s'il estimait que c'était trop dur d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem où on risquait d'y laisser ses os, l'Église catholique compatissante, pleine de miséricorde et de bonté, acceptait une indulgence, d'être indulgente vis-à-vis du pécheur. Elle calculait ce que pouvait représenter, au point de vue pécuniaire, un voyage à Jérusalem, et il suffisait que le pécheur paye à l'Église l'équivalent de son voyage là-bas, et c'était bon, c'était considéré comme s'il avait été à Jérusalem. Alors forcément, c'était un moyen... Alors, chose aussi très intéressante, n'est-ce pas, pour l'Église catholique, c'est que ces indulgences-là étaient valables pour les vivants, bien sûr, mais aussi pour les morts. Alors on pouvait aussi, donc, demander des indulgences, payer des indulgences, pour les morts qui n'avaient pas eu la possibilité de leur vivant d'aller à Jérusalem, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou à Rome, ou bien d'aller à la croisade, que sais-je. Et alors, ça permettait évidemment à l'Église catholique d'arrondir les fins de mois d'une manière assez conséquente, ce qui pour Wycliffe était évidemment quelque chose de scandaleux. Et de l'effet, Wycliffe remonte à la cause. Non seulement il met en cause l'indulgence, mais il met en cause la confession, le principe même de la confession. Donc ici, quatre thèses qui sont la base des revendications de Wycliffe. Donc l'Église pauvre, premièrement. Deuxièmement, l'Église n'a aucun droit de posséder des biens séculiers. Troisièmement, c'est à l'État de payer l'Église. Et puis, l'Église n'a pas le droit d'accorder des indulgences et n'a pas non plus le droit d'accorder l'absolution à la suite de la confession. C'est un privilège qui appartient au Seigneur seul. Bon, on comprend qu'avec des tests pareils, les relations entre Wycliffe et le Vatican s'enveniment assez vite. Et le ton monte, Wycliffe ne lâche pas. Il passe à une autre persiste et signe, comme on dirait aujourd'hui, et il est un des premiers a qualifié le pape de l'Antichrist. Il écrit, il enseigne que le pape n'est rien d'autre que l'Antichrist qui a été prophétisé dans le livre de l'Apocalypse notamment. La prédication de Wycliffe a un succès immédiat, notamment auprès des petites gens qui ont le plus à souffrir précisément de l'oppression de l'Église, de la richesse de l'Église et des clercs. Et il y a au milieu de la paysannerie anglaise au sein de laquelle Wycliffe réside un véritable réveil. Ce réveil est tellement important, spontané et en même temps puissant, que Wycliffe est obligé de le structurer. Alors évidemment, pas question de nommer des prêtres, qui évidemment ne seraient pas reconnus par l'Église, étant donné que le mouvement n'est pas encore excommunié, mais enfin, il est quand même déjà plus que suspect. Et Wycliffe donc va créer des groupes d'évangélistes itinérants qui vont aller prêcher l'Évangile un peu partout. C'est ce qu'on appelle les Lollards. Ça viendrait d'un mot anglais, du mot low, n'est-ce pas, bas, doucement, parce que Wycliffe, qui était quand même un homme qui connaissait à quel adversaire il se heurtait, il savait que c'était un adversaire absolument impitoyable, avait donné comme consigne à ses évangélistes de ne pas trop se faire remarquer, de se faire le plus discret possible, de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de provocations inutiles. Donc on les appelait les Lollards, donc ceux qui parlaient doucement. Et puis aussi peut-être parce que c'était des gens qui étaient d'une origine assez humble, ce n'étaient pas des nobles, ce n'étaient pas des seigneurs, loin s'en faut, c'était des gens simples, c'était des gens du peuple. Alors, c'est le prétexte pour la papauté d'intervenir. Comment Wycliffe peut-il envoyer prêcher des gens qui n'ont pas l'autorisation du pape pour prêcher? Car pour avoir le droit de prêcher, dans l'Église du Moyen-Âge, il faut une autorisation du pape. Souvenez-vous, par exemple, de Dominique, qui avait demandé cette autorisation au pape avant de fonder son mouvement, au siècle précédent. Bon. Wycliffe, bien sûr, n'a pas demandé l'autorisation du pape parce qu'il savait d'avance que ce serait refusé. Donc, Wycliffe est condamné par Rome pour avoir envoyé des prédicateurs sans autorisation. Wycliffe riposte et il publie 12 thèses dans lesquelles il condamne l'Église catholique, démontrant que sa doctrine n'est pas scripturaire, n'est pas biblique, n'est pas conforme à l'enseignement de l'Écriture sainte. Alors, pour appuyer ces 12 thèses, et en même temps pour permettre à son mouvement d'évangélisation de se développer, Wycliffe est le premier à comprendre qu'il faut mettre l'Écriture sainte à la disposition de ces gens simples qui l'évangélisent. Jusqu'alors, l'Écriture, la Bible, d'abord était extrêmement rare parce que les livres l'étaient, quels qu'ils soient. Dans la mesure où l'imprimerie n'existait pas, l'Écriture devait être copiée à la main. Et quand on sait que la Bible est quand même un ouvrage important, eh bien, avoir une Bible chez soi, c'était une véritable fortune. Seuls des gens extrêmement aisés avaient la possibilité d'avoir une Bible à leur disposition. Deuxièmement, cette Bible était en latin, qui était la langue sainte. C'est dans cette langue que la Bible était lue au peuple, qui bien évidemment n'y comprenait rien, puisqu'il ne connaissait pas le latin. Autant dire que c'était absolument inutile de faire des grandes lectures de la Bible à l'occasion des messes. Wycliffe comprend cela. Il n'a pas la prétention de mettre une Bible à la disposition de chaque foyer, puisqu'il sait bien que pécuniairement ce serait impossible, mais il veut en tout cas faire en sorte que les clercs qui lisent la Bible puissent le faire dans la langue qui est comprise par le peuple. Et Wycliffe va entreprendre la première traduction de la Bible en langue vulgaire, comme on dit, ça veut dire en langue du peuple. La langue vulgaire étant le contraire de la langue sacrée, qui est le latin. Et c'est dans ce sens que Wycliffe est l'ancêtre et le précurseur de tous les traducteurs de la Bible. Il y a d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui certaines organisations missionnaires qui s'attachent à traduire la Bible dans toutes sortes de langues de toutes les tribus du monde, qui s'appellent justement l'organisation Wycliffe, en mémoire et en hommage au courage et à la clairvoyance de cet homme de Dieu qui, le premier, a eu cette géniale intuition que si l'on voulait vraiment que l'œuvre de Dieu progresse, il fallait que la Bible soit accessible au peuple. Car comment le peuple pouvait-il comprendre que les thèses de Rome étaient antiscripturaires s'il n'avait pas accès à l'Écriture ? Et Wycliffe concluait que si l'Église catholique avait pu berner son monde aussi longtemps et lui faire avaler des doctrines qui n'étaient pas scripturaires, c'est précisément parce qu'elle avait réussi à subtiliser et à cacher précisément l'Écriture sainte aux yeux du peuple. Et la bombe de Wycliffe, la bombe qu'il a préparée, c'était justement de mettre l'Écriture ici à la disposition du peuple, c'est-à-dire de mettre chaque individu en mesure de comparer ce que dit l'Écriture d'une part et puis ce que dit l'Église catholique et de voir que précisément les thèses de l'Église catholique n'étaient pas bibliques. Un des chevaux de bataille de Wycliffe dans ses 12 thèses était justement le dogme de la transsubstantiation. Wycliffe a démontré par l'Écriture que la transsubstantiation était quelque chose qui était anti-biblique. Et ça aussi, ça a été l'occasion alors d'un conflit, non plus cette fois-ci avec la papauté, mais avec les autorités ecclésiastiques locales, notamment l'évêque d'Oxford, l'évêque de Londres, qui s'est ému de cette condamnation et qui a fait en sorte qu'il perde son poste de professeur de théologie à l'université d'Oxford. Ça a été la première mesure de persécution à l'encontre de Wycliffe, qui était un homme respecté, vénéré par tous, notamment par ses collègues. C'est pourquoi l'Église catholique ne s'est pas sentie capable ni assez forte pour l'affronter de front. Et puis, dans un deuxième temps, l'évêque de Londres a interdit à Wycliffe de prêcher. Wycliffe ne s'est pas laissé intimider. Non seulement il n'a pas cessé de prêcher, mais on pourrait dire qu'il a même prêché encore de plus belle. Et il s'est mis à enseigner ce qui sera la base de la réforme de Luther et de Calvin deux siècles plus tard, que lorsque l'Écriture et l'Église catholique sont en désaccord, c'est à la Bible, qu'il faut obéir. Parce que, comme il aimait à le citer, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, évidemment, là, c'est l'attaque directe de l'autorité du pape. Et c'est à cette occasion-là qu'il va envoyer cette fameuse lettre au pape, lui demandant de renoncer à ce qu'il appelle son autorité humaine et à ses richesses. Pour lui, il estime que l'institution papale n'est pas du tout essentielle pour l'Église, que l'Église n'est rien d'autre que le rassemblement des élus et non pas la hiérarchie ecclésiastique, comme c'était la thèse officielle de l'Église de Rome à ce moment-là, qu'il n'était pas du tout obligatoire que les prêtres soient célibataires, car le mariage était tout aussi honorable que le célibat, ce qui était loin d'être une évidence pour les hommes du Moyen-Âge, notamment pour ce qui concernait l'Église catholique. Et Wycliffe, en défendant l'honorabilité du mariage, avait beau jeu de montrer que, précisément, l'interdiction faite aux prêtres de contracter mariage faisait que ces derniers vivaient dans l'immoralité la plus noire, ce qui était loin d'être l'idéal, bien évidemment. Au contraire, mieux aurait valu que ces gens-là soient mariés et vivent une vie décente, plutôt qu'ils vivent comme vivait la majorité des prêtres de son temps, car il faut le dire, surtout le bas clergé était en général rustre et ignorant, connaissaient pas beaucoup plus l'Écriture d'ailleurs que leurs ouailles, et la plupart d'entre eux vivaient dans le concubinage, etc., quand c'était pas pire, n'est-ce pas ? Ne parlons pas, alors là, des évêques, ne parlons pas des papes, nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelque temps, surtout au siècle suivant. Alors là, nous aurons des merveilles dans le genre, notamment la fameuse famille des Borgia, mais ça, nous y reviendrons. Donc, une attaque de Wycliffe contre l'immoralité du clergé, contre l'immoralité des papes. Et évidemment, Wycliffe, là, est carrément excommunié. Donc, après avoir été ainsi excommunié, Wycliffe se retire dans un petit village non loin d'Oxford où il va passer le reste de sa vie. Il va consacrer une bonne partie de ce temps-là à cette traduction de la Bible qu'il avait ainsi entreprise et qui sera condamnée comme quelque chose de tout à fait abominable. Comment peut-on traduire la Bible en langue vulgaire? Comment peut-on mettre la Bible ainsi à la disposition des vulgaires, n'est-ce pas? C'est absolument scandaleux. Et petit à petit, Wycliffe, dans ce travail de traduction biblique, redécouvre, les unes après les autres, les grandes doctrines bibliques. La conversion, la sanctification. Et au fur et à mesure qu'il redécouvre ces choses, il se met à les prêcher. Et puis, il va beaucoup plus loin, car il était très sensibilisé par la misère des pauvres gens, qui était vraiment quelque chose de dramatique en cette fin du Moyen-Âge. La condition des serfs ne valait pas beaucoup mieux que celle des esclaves dans l'Antiquité romaine, n'est-ce pas? Et Wycliffe s'est interrogé pour essayer de voir comment il serait possible de résoudre ce problème de la pauvreté. Il avait lu dans la Bible que on ne peut pas simplement s'occuper en tant que chrétien, des besoins spirituels des gens, si aussi on ne s'occupe pas de leurs besoins matériels. Alors comment résoudre cet énorme problème social qui était celui justement des classes les plus défavorisées de la fin du Moyen-Âge? Alors, soudain, il a eu une intuition assez géniale qu'il a trouvée dans le livre des Actes. Il a tout simplement proposé une mise en commun des biens des chrétiens, comme il avait vu dans l'église de Jérusalem. Évidemment, vous pensez bien que la prédication de ce point de doctrine a été aussi fraîchement accueillie par notamment ceux qui avaient quelques biens, qui n'étaient pas du tout prêts à les partager, loin s'en faut. Et ceci a contribué à rendre Wycliffe encore beaucoup plus suspect. Pour Wycliffe, il y avait aussi un point de doctrine extrêmement important qui fait vraiment de lui un des grands précurseurs de la Réforme. C'était le fait qu'on était dans l'Église, non pas par le fait de la naissance naturelle, n'est-ce pas, comme c'était le cas de son temps, mais par l'effet de la grâce de Dieu. Seuls ceux qui étaient au bénéfice de la grâce de Dieu pouvaient entrer dans l'Église, pouvaient revendiquer, faire partie de l'Église. Donc, si vous voulez, c'était, deux siècles avant Luther, la doctrine, la justification par la grâce. Et d'ailleurs, Wycliffe sera un petit peu excessif dans ce domaine-là, d'ailleurs, comme le seront les réformateurs, Luther et surtout Calvin. Il aura certaines tendances à professer la doctrine de la prédestination absolue, c'est-à-dire Dieu prédestine de toute éternité ceux qui sont élus et ceux qui seront damnés. Évidemment, ça, ce n'est pas biblique, c'est excessif. Pas. Mais c'était une sorte de réaction vis-à-vis de la théologie catholique de son temps, basée sur les mérites, basée sur tout cela, et puis aussi contre le fait qu'il s'élevait contre tout ce qui était dispensateur de grâce, donc œuvre méritoire dans la conception catholique. Par exemple, les reliques. Il a écrit des choses terribles contre les reliques, contre les pèlerinages, contre le culte des saints. Et alors, Wycliffe a insisté aussi sur l'importance de la prière. Wycliffe était un homme de prière et il enseignait que le seul canal de la grâce n'était donc ni les reliques, ni les pèlerinages, ni les indulgences, ni les prières des saints, mais la prière personnelle du croyant qui répand son âme devant Dieu. Et en même temps, la prière de l'Église fidèle de tous ceux qui peuvent s'unir, deux ou trois sont assemblés en mon nom, comme il aimait à le citer. Par contre, il enseignait que penser que l'on puisse gagner le ciel par de l'argent, est quelque chose qui est blasphématoire, ce en quoi il avait parfaitement raison, bien sûr. Or, la doctrine de Wycliffe va avoir des effets inattendus. La prédication de Wycliffe va avoir aussi des effets inattendus. Parce que Wycliffe ne se rend pas compte qu'en prêchant ce qu'il prêche, c'est le système féodal tout entier, le système du Moyen-Âge qu'il met en cause. Car si effectivement il faut que les riches partagent avec les pauvres, si véritablement il n'y a plus, n'est-ce pas, cette espèce de hiérarchie sociale très rigide qui marque la société féodale, eh bien, c'est le système lui-même qui est mis en cause. Et dans la mesure où Wycliffe milite pour l'émancipation des serfs, notamment de la tutelle ecclésiastique, c'est aussi ce système féodal qu'il met en cause. Wycliffe ne le comprend pas, mais un certain nombre de gens, parmi ceux qui sont touchés par sa prédication, le comprennent. Et bien évidemment, on n'osait pas trop toucher à Wycliffe parce que c'était une personnalité, de son vivant du moins. On verra ce qui va se passer après sa mort, mais de son vivant. Et les persécutions commencent à se manifester à l'endroit des Lollards, comme on les appelle, des paysans qui se sont ralliés à Wycliffe. Et il se passe ce qui s'est produit, par exemple, au moment de la révolte des Camisards en Cévennes. Il y a un moment où ces gens poussés à bout prennent les armes. D'abord, c'est un mouvement de légitime défense, puis ça déborde à une véritable révolution, une remise en cause du système féodal tout entier au nom de l'Évangile. Après tout, pourquoi l'Église peut-elle opprimer les serfs? Pourquoi l'Église appuie-t-elle les seigneurs qui oppriment les serfs? Et en 1381, éclate en Angleterre la révolte des paysans. Wycliffe se hâte de la condamner. C'était pas du tout ça, son but, c'était pas du tout sa pensée. Wycliffe envisageait certes une remise en cause du système, mais par des moyens pacifiques, non pas par des moyens violents. Il n'est pas écouté. L'armée paysanne prend Londres, s'empare de Londres carrément, exécute l'archevêque, les autres dignitaires ecclésiastiques également, avant que, évidemment, le pouvoir royal ne réagisse, ne se ressaisisse et noie la révolte dans le sang. C'est une sorte qu'on appelle à cette époque-là des jacqueries, n'est-ce pas ? Ces révoltes sporadiques de paysans, mais cette fois-ci animées par un idéal spirituel, religieux, n'est-ce pas ? Et bien sûr, après des premiers succès, les masses de paysans qui n'ont en quelque sorte pour eux que leur ras-le-bol, quoi, hein, finalement, sont écrasés en face des gentilshommes qui sont des professionnels de la guerre, qui sont armés, qui ont des chevaux et qui, évidemment, au bout d'un temps, finissent toujours par mater les jacqueries. Wycliffe ne va pas survivre à la tragédie et, désespéré de voir à la fois le dérapage du mouvement qu'il a lancé et puis aussi le fait que ce dernier soit noyé de cette manière-là dans le sang, Wycliffe meurt quelques temps plus tard. Et à sa mort, alors, l'Église catholique a le coup de pied de l'âne. On refuse qu'il soit enterré en terre chrétienne, comme on le dit. Et Wycliffe, qui a malgré tout été enterré, on ordonne que ses os soient déterrés et dispersés. Quant à ses écrits, notamment sa Bible, elle doit être brûlée. Néanmoins, le mouvement des Lollards va continuer à exister après l'écrasement de la révolte. Il va se restructurer, un petit peu comme avait fait le mouvement de la réforme après la révolte des Camisards. Il va y avoir une reprise en main avec donc une beaucoup plus grand équilibre. Et il va continuer à subsister pratiquement jusqu'à la réforme. Et puis au moment de la réforme, ce mouvement va se joindre dans les différents mouvements protestants qui vont naître à cette époque-là. Nous sommes ici à peu près à 150 années de la fin du Moyen-Âge, qui va être marquée par l'effondrement de l'Empire d'Occident. Et dans le même temps où Wycliffe prêche en Angleterre, il y a dans l'Est de l'Europe d'autres mouvements du même ordre qui se dessinent, des mouvements de contestation de l'Église catholique. C'est le cas dans deux grands centres, Strasbourg et Cologne, donc en Allemagne. C'est ainsi que, en 1329, un certain Walter, originaire de Cologne, est brûlé à Mayence pour hérésie caractérisée. En fait, il s'agit là d'une des branches des Lollards qui a migré précisément dans cette région et notamment dans les Pays-Bas. Walter lui-même semble être quelqu'un qui venait, qui était originaire des Pays-Bas et qui prêchait les doctrines de Wycliffe dans la région de Cologne, Mayence, enfin dans toute cette région de l'Allemagne. Alors voici ce qu'enseignait cet homme. Il contestait le fait que le pape soit comme Dieu, qu'il ait le pouvoir de sceller sur terre et d'avoir donc en quelque sorte une puissance illimitée. Quelques années plus tôt, il y avait un autre homme aussi qui avait quelque peu défrayé la chronique, c'était un Français. Il se nommait Maître Eckhart. Maître Eckhart était quelqu'un qui enseignait à l'Université de Paris, la fameuse Sorbonne, qui était l'université la plus réputée du monde à cette époque-là. Et il avait, dès l'année 1307, il avait commencé à émettre des thèses qui étaient quelque peu hérétiques au regard de ce que l'Église catholique enseignait. Et c'est pourquoi il avait été chassé de son poste de professeur à l'Université de Paris. Il s'était réfugié à Strasbourg. Et c'est ainsi que Strasbourg était devenu, après Cologne, le deuxième centre des Lollards, en quelque sorte, de ce qu'on appelait les Lollards, ce mouvement de contestation de l'Église catholique qui, en principe, gravitait autour de Wycliffe, mais qui était quand même, pour ce qui était de sa partie orientale, qui avait au départ des liens assez lâches, parce que Eckhart et puis Walter étaient des gens qui, par eux-mêmes aussi, avaient découvert ces choses. Et puis finalement, ils s'étaient rendus compte que ce qu'ils avaient découvert était proche de ce que Wycliffe enseignait. Donc, il y avait une espèce d'osmose qui s'était faite entre les trois groupes. Et finalement, l'Église catholique, leurs adversaires, réunissait tous ces gens-là sous le nom général de Lollards. Mais par exemple, les partisans de Descartes ne se nommaient pas eux-mêmes des Lollards, mais tout simplement des frères. Ils s'appelaient les frères. Et nous avons vu qu'au siècle précédent, il y avait déjà des ligues qui s'étaient créées un peu partout, dans les villes libres notamment, des ligues d'artisans, qui avaient leurs propres institutions, leurs écoles d'apprentissage, les examens qui faisaient qu'on pouvait rentrer dans la guilde quand on avait atteint un certain niveau de compétences. Ensuite, tout un système d'assistance mutuelle, de solidarité, etc. Et puis aussi, donc, toute une dimension spirituelle. Car au Moyen-Âge, on ne peut pas séparer le spirituel du temporel. Et ces ligues d'artisans, ces guildes, qui étaient souvent donc très riches, par exemple la Ligue hanséatique, qui couvrait l'Europe tout entière et même qui commerçait avec le monde musulman par l'intermédiaire des juifs, ces guildes qui avaient donc des moyens financiers importants avaient les moyens aussi de se procurer des Bibles. Et parmi les activités des ligues, il y avait des études bibliques. Les études bibliques qui avaient alors un succès formidable. Tant et si bien que parfois, on entrait dans la ligue simplement pour pouvoir avoir accès à la lecture de la Bible. Il y avait une véritable fringale de la parole de Dieu dans ces villes libres de la fin du Moyen-Âge. Il y avait même des femmes qui entraient dans ces guildes-là, où elles n'avaient rien à faire, parce que la femme au Moyen-Âge n'avait pas d'activité professionnelle comme aujourd'hui. Mais elles entraient poussées par la soif de la parole de Dieu. Et des gens comme Eckhart, ou bien comme Walter, ont trouvé au sein de ces ligues des oreilles extrêmement attentives. Parce que ces gens, forcément, du fait qu'ils avaient accès à la Bible, en latin, mais la plupart d'entre eux connaissaient le latin, ça, eh bien, faisaient la différence, justement, entre les erreurs romaines et puis l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que se sont créés, notamment justement dans cette région de la Rhénanie, en quelque sorte, hein, ce qu'on appelait les groupes d'amis, les groupes de frères, simplement, ça, les frères. Bon, il y avait aussi une autre désignation, les amis de Dieu. En fait, c'était quelque chose qui était plus, alors encore beaucoup plus à l'est, qui touchait, si vous voulez, aux frontières du monde slave. Et c'était une désignation qui venait aussi, alors des siècles précédents, de ces groupes dont on a déjà parlé, qui contestaient déjà le pouvoir romain, qu'on appelait les Bogomiles. On a déjà parlé, c'est peut-être lointain déjà dans vos souvenirs, mais si vous reprenez les études précédentes, vous vous souviendrez qu'on a parlé des Bogomiles, qui étaient originaires essentiellement de Bulgarie. Eh bien, les survivances de ces gens-là, qui avaient été persécutés, comme nous l'avons vu, se retrouvent aussi à cette période avec tous ces groupes de Lollards, de frères, d'amis de Dieu. Et à la fin du siècle, il y avait un peu partout de très très nombreux groupes comme ça qui se réunissaient plus ou moins clandestinement sous le manteau. Officiellement, ils continuaient à être catholiques. Dans les faits, c'était des ferments de contestation formidables qui allaient préparer justement le grand mouvement de la réforme. Parmi ces amis de Dieu, il y a un autre nom qu'il faut citer, c'est le nom de Tauler, T-A-U-L-E-R, qui lui aussi donc, s'est mis à prêcher des thèses semblables à celles de Wycliffe, et qui a eu l'oreille notamment de Louis II de Bavière, le prince de Bavière. Et le prince de Bavière a été, nous l'avons vu, un grand défenseur des groupes bibliques qu'il y avait dans les ligues. C'est auprès de lui que ceux qui étaient persécutés se réfugiaient, comme le fera Luther à la cour du grand électeur. Ah. Et c'est dans ces conditions-là, et grâce à l'appui du prince de Bavière, que les amis de Dieu vont pouvoir se développer. Tauler était un homme qui avait une vision biblique très très affinée. C'est ainsi qu'il a été le premier à déclarer que les persécutions contre les Juifs, qui étaient monnaie courante à cette époque-là, qui plus est, qui atteignaient des sommets en ce XIIIe siècle. Car le XIIIe siècle, c'était un siècle aussi qui avait été marqué par des catastrophes naturelles abominables, notamment la Grande Peste Noire. La Grande Peste Noire était une formidable épidémie de peste qui avait ravagé toute l'Europe au XIIIe siècle, en sorte que le tiers de l'Europe, le tiers de la population européenne avait été décimé en l'espace de quelques années par la peste, qui était partie d'une extrémité de l'Europe et qui s'était répandue par étapes à l'autre extrémité de l'Europe. Et alors, était parue à cette époque-là une calomnie selon laquelle la peste noire était propagée par les Juifs. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que les Juifs qui vivaient en ghetto, les Juifs qui respectaient des lois de cacheroute qui, en même temps, étaient des lois qui avaient à voir avec l'hygiène, n'est-ce pas ? Qui avaient donc une hygiène nettement plus élevée que le reste de la population, avaient été sensiblement moins atteints par la peste noire que les autres. Et les populations donc catholiques s'étaient rendu compte que les Juifs étaient moins touchés par la peste noire, et alors ils en avaient conclu que, si il en était ainsi, et d'ailleurs on ne prête qu'aux riches, n'est-ce pas, ils estimaient qu'aucun juif n'avait été touché par la peste noire, ce qui était faux, de nombreux juifs étaient morts aussi, mais quand même en proportion moindre. que les non-juifs. Et alors, on avait fait courir ce bruit que les juifs étaient ceux qui avaient propagé la peste noire en empoisonnant les puits, notamment. Et alors, de terribles persécutions, spontanées plus ou moins, s'étaient répandues sur les communautés juives, ce qui joignait l'utile à l'agréable, parce que quand on avait ainsi massacré les juifs, on s'emparait de leurs biens, ce qui était toujours bon à prendre. Et Tolère, justement, est un homme qui s'est levé contre ces persécutions des juifs, en disant que les persécutions de juifs n'avaient d'autre raison, d'autre motif, en fin de compte, que la convoitise et le lucre des catholiques à l'endroit des biens des juifs, ce qui était évidemment extrêmement, extrêmement exact, extrêmement vrai. Bien sûr, ces hommes-là n'ont pas tardé à être persécutés, ça on s'en doute. Car petit à petit, l'Église catholique a commencé à prendre conscience de l'ampleur du phénomène, bien que elle avait d'autres chats fouettés, et c'était heureux pour tous ces gens-là. Elle avait ses propres problèmes, ses papes et ses antipapes qui se déposaient les uns les autres, tant et si bien que, bon, elle était nettement moins apte à persécuter les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu qu'au siècle précédent. Néanmoins, l'Église catholique s'est émue, et c'est ainsi que Tolère, par exemple, et ses amis ont été amenés à se cacher dans l'Oberland bernois en Suisse à cause des persécutions. Et c'est alors que, contraint de fuir Strasbourg, eh bien, Tolère a voulu mettre en pratique l'Évangile jusqu'au bout, avant de se réfugier donc en Oberland, tout en sachant qu'il risquait sa vie n'importe comment. Eh bien, avant de partir de Strasbourg, il a publiquement donné tous ses biens aux pauvres et il est parti pratiquement sans le sou, sans rien, là-bas. Il faut dire que nous l'avons vu, heureusement pour Tolère et ses partisans, l'Église catholique avait eu nettement moins de zèle à persécuter les hérétiques qu'au siècle précédent. Elle avait moins de zèle aussi contre les infidèles musulmans. Et malgré le fait que pendant tout ce siècle, on ait cessé de lancer des appels à la croisade, ces appels-là, évidemment, sont tombés tout à fait à côté. Il n'y a absolument eu aucun écho, aucun répondant pour partir à la croisade. Mais par contre, il était absolument clair. Il était clair, même pour les catholiques les plus convaincus, que l'état de décadence et de décomposition du catholicisme était tel que le besoin d'une réforme en profondeur s'imposait. Non plus simplement une réforme comme celle qui avait marqué des siècles précédents, par exemple la réforme de Cluny, mais une réforme beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale, qui devrait avoir une base beaucoup plus évangélique. Et la hiérarchie catholique, pendant deux siècles encore, va freiner ce besoin de réforme qui monte au sein de la population catholique. Et alors, ce freinage a deux résultats. D'abord, c'est que chez ceux qui sont véritablement évangéliques, eh bien, il va y avoir de plus en plus de mouvements de contestation comme ceux que nous avons évoqués. Et puis alors, au contraire, il va y avoir l'inverse, c'est-à-dire des gens qui vont perdre toute confiance dans l'Église et qui vont se détacher de la foi. Et alors, va apparaître un mouvement de contestation de la foi, tout simplement. Un éloignement de la foi. Bien sûr, à cette fin du Moyen-Âge, où la religion fait partie intégrante de la vie quotidienne, il n'est pas question de s'afficher comme athée, le mot n'existe pas encore d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais de plus en plus, notamment chez des jeunes, il y a sous le manteau des pamphlets athées qui circulent, n'est-ce pas? Par exemple, un homme comme François Villon, qui est un poète français de cette période-là, bon, appartenait à ce mouvement. Et d'ailleurs, il sera condamné à mort. Pas spécialement pour ça, mais enfin, c'était dans tout ce contexte. Et en fait, si vous voulez, il y a le mouvement qui est apparu au XVIIIe siècle, le mouvement de déchristianisation a commencé à partir de la fin du XIVe siècle. Et il va avoir un effet tout à fait inattendu. Il va donner tout simplement la Renaissance. La Renaissance classique qui apparaîtra donc à la fin de ce siècle déjà en Italie, ce que les Italiens appellent le Trecento. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et la conséquence de ce mouvement de contestation de l'Église catholique. On revient à l'Antiquité païenne, qui apparaît comme quelque chose de beaucoup plus attrayant que le christianisme. L'Antiquité païenne avec l'insistance sur ce monde-ci, car le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge notamment, était tombé dans des excès absolument indescriptibles, notamment le XIVe siècle, c'est le siècle de la peur. C'est pas la peur de l'enfer, la peur des démons, la peur du purgatoire. Le catholicisme tient les populations sous un joug de crainte incroyable dont nous n'avons absolument aucune idée. Et grâce à cette crainte, n'est-ce pas, la crainte de la mort qui est partout, et c'est l'époque des danses macabres, on dépeint toutes les réalités infernales sous des dehors terrifiants pour mieux effrayer les gens et pour mieux les maintenir dans la subjection de l'Église catholique. Les danses macabres qui sont peintes sur les églises où on voit la mort sous la forme d'un squelette avec une faux en train d'entraîner donc des farandoles de toutes sortes de gens. Cette période-là, c'est l'époque des flagellants, où à la suite des grandes pestes noires, ces gens fanatiques parcourent l'Europe en se flagellant et en pillant d'ailleurs, parce qu'il faut bien vivre, et prêchant l'enfer, des choses terrifiantes. Alors, il y a un ras-le-bol chez un certain nombre de gens qui ont perdu toute confiance dans l'Église catholique, et qui se rendent bien compte que toute cette emphase, toute cette surenchère sur les choses infernales n'a d'autre but que de maintenir la puissance catholique, les gens sous la dépendance de l'Église catholique. Alors, il n'est plus question que de faire son salut, pour penser à l'au-delà, et la vie terrestre n'a plus d'importance pour, évidemment, pour les petites gens. Mais allez demander à Borgia si la vie terrestre n'a pas d'importance, il en profite bien. Alors vous comprenez, ça passait pas inaperçu. On voyait ces mêmes prêtres qui, du haut de la chair, tonnaient contre les plaisirs de cette vie, et disant que c'était simplement dans l'autre, et puis en même temps, eh bien, ils voyaient ces mêmes prêtres qui menaient grande et joyeuse vie. Alors vous comprenez, c'était le discrédit total, quoi. Alors, il y a eu le mouvement inverse, le mouvement de bascule. On s'est dit, bien, il faut revenir donc à l'importance de ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est celui qui est le plus important. Et vivons notre vie ici sur cette terre, profitons de notre vie. Revenons donc aux choses de la terre, le culte du corps, de la sexualité, du bien vivre, de la beauté, des plaisirs de ce monde. Et ça a été la Renaissance, le mouvement de la Renaissance est né de là. Alors, l'Église catholique a été absolument surprise par ce mouvement-là. Et alors, comme elle fait toujours dans ces cas-là, elle a essayé de l'accompagner pour ensuite le contrôler. Et à la Renaissance, vous allez avoir des papes qui vont être à fond dans cette mouvance-là, comme Jules II, par exemple, qui a fait peindre le fameux plafond de la chapelle Sixtine, donc à Michel-Ange, hein. Qui va prendre la tête de ce mouvement-là. D'abord parce qu'il est assez épicurien aussi, mais aussi dans un but stratégique. La stratégie de l'Église catholique va être de contrôler ce mouvement de la Renaissance. Et le mouvement de déchristianisation aurait pu avoir lieu dès le XVIe siècle, dès la Renaissance, si la Réforme n'était pas intervenue. La Réforme a fait gagner 2 siècles, si vous voulez. Et c'est au bout du XVIIIe siècle, quand la Réforme s'est essoufflée, que le mouvement de déchristianisation a repris. Alors, et vous, ici, on arrive vraiment à un fiasco total de l'Église catholique, si ce n'est grâce à ces quelques courageux témoins comme Wycliffe, comme Toller, comme Walter, comme d'autres, n'est-ce pas, qui vont tenir ferme malgré tout, malgré cette évolution tragique de l'Église catholique. Alors, il y a aussi une contestation qui s'opère à un autre niveau plus élevé, le niveau de la théologie et de la philosophie. Il y a les premières attaques contre le thomisme, qui naissent à cette période-là. Notamment cette possibilité que l'on a de prouver les dogmes par la raison, d'apporter des preuves de la foi. Et un certain nombre de théologiens, notamment un certain Occam, Occam, je ne sais pas comment on dit, O-2-C-A-M, va être celui qui va contester et critiquer de manière la plus sévère la philosophie, la théologie de Thomas d'Aquin. Et Occam va être un homme qui va exercer une très grande influence sur Luther, car outre la redécouverte de l'Épître aux Romains, eh bien, les œuvres d'Occam vont aussi déterminer Luther à rejeter le système de la papauté tel qu'il l'avait connu. Occam affirme que une chose peut être reconnue comme vraie par la foi et être en contradiction avec la raison. Et ça, c'est de prendre de plein fouet la théologie de Thomas d'Aquin, pour laquelle il n'y a aucune contradiction entre la raison et la foi, et que l'homme intelligent sera automatiquement un homme de foi. Occam dit non, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est une autre intelligence. Et il prend les textes de Paul, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Au contraire, elles sont une folie pour lui, car c'est spirituellement qu'on en juge. Or, on se rend bien compte que la théologie d'Occam implique, à ce moment-là, pour comprendre la vérité de Dieu, la nouvelle naissance. Et on rejoint Wycliffe, la conversion, la grâce de Dieu qui donne accès à la vérité. Mais l'homme naturel, même avec son intelligence, ne peut pas s'élever jusqu'aux choses de Dieu. Et Thomas d'Aquin fait l'économie de la conversion. Tout le système de Thomas d'Aquin est faussé parce que, justement, il ignore ce qu'est la véritable conversion. Et c'est Occam, et donc automatiquement Luther par la suite, qui va replacer cette réalité-là au centre de la vérité biblique. Pendant que ces dramatiques événements se produisent en Occident, que se passe-t-il en Orient ? Le christianisme oriental, il faut que nous en disions un mot. Le christianisme oriental brille de ses derniers feux. Encore 150 ans et il va disparaître, du moins à Constantinople, pour ce qui est de l'Empire, l'Empire byzantin. L'Empire byzantin vit ses derniers moments. En fait, l'Empire byzantin est maintenant pratiquement entre les mains des moines, et de moins en moins des empereurs. Les moines sont amenés à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans les destinées de l'Empire byzantin, ce qui sera particulièrement malheureux pour la suite des choses. D'autre part, il y a un autre mouvement, c'est que le schisme de 1053 n'est toujours pas résorbé, mais ni d'un côté ni de l'autre, on a perdu l'espoir de voir les choses s'arranger. Maintenant, il y a un autre problème avec lequel est confronté cet empire byzantin, c'est la menace musulmane. Le monde byzantin est sorti affaibli des croisades, notamment de la croisade qui a mis à sac Constantinople, nous l'avons vu, dont il ne se remettra jamais. La pression musulmane est de plus en plus forte, et les empereurs se rendent bien compte de l'imminence de ce danger. Par contre, le peuple, qui lui est tout entier, sous la coupe des moines, n'a aucune conscience, aussi étonnant que cela soit, du danger musulman tel qu'il est, du désastre imminent. Un des derniers empereurs à prendre conscience de ce danger se nomme Michel Paléologue, et lui réalise que le salut ne peut venir que de l'Occident, c'est-à-dire que d'un secours massif de l'Occident. Ce secours, il compte essentiellement sur les flottes italiennes, celles de Venise, de Gênes notamment. Mais pour que ce secours puisse venir, il faut que le schisme soit résolu. Jamais l'Occident n'acceptera de venir au secours de l'Orient si l'unité de l'Église n'est pas rétablie. Et Michel Paléologue va s'acharner à tenter de trouver une solution à ce problème religieux qui conditionne la survie politique de l'Empire. Bon, au début du siècle, Michel Paléologue meurt, lui succède un certain Ambroise II, 1282-1328, qui alors lui est une nullité politique complète. Et alors, il organise à Constantinople des manifestations contre l'Union. Complètement stupide. Ces manifestations ont l'appui des moines, qui se conduisent comme des véritables dictateurs politiques et qui se mettent à faire régner dans l'Empire d'Orient un véritable régime de terreur, préparant ainsi la chute de l'Empire. Et c'est la raison pour laquelle une nouvelle croisade, non pas pour reprendre Jérusalem, mais pour, quelque sorte, dégager Constantinople, que Michel Paléologue appelait de ses voeux, va avorter sous le règne de son successeur. À Ambroise succède un empereur qui se nomme Andronique III, 1328-1341, qui alors lui est un petit peu plus intelligent qu'Ambroise, et il envoie à Avignon deux émissaires pour demander l'union. Demander que se réunisse un concile œcuménique pour résoudre ce problème de l'union entre les deux fractions de l'Église. Le pape de l'époque est Benoît XII, qui refuse. C'est un de ces papes avignonnais qui est sans envergure. Il prétexte qu'il y a déjà un concile à Lyon et qu'il est inutile de convoquer un nouveau concile. Donc, les émissaires de Constantinople sont amenés à s'expliquer devant le concile de Lyon. Et finalement, un accord intervient. Un accord intervient parce que finalement, le problème n'est pas un problème si insurmontable que ça. La question du filioque, savoir si le Saint-Esprit procède du Père seul ou du Père et du Fils, vous n'allez pas me dire que c'est un problème théologique insurmontable. Bon, le problème numéro un, c'est le pouvoir du pape et des conciles. Finalement, on arrive à un compromis dans ce sens que les émissaires de Constantinople font des concessions. Ils reconnaissent la primauté du pape avec finalement une vision quasiment catholique. Seulement, alors c'était bien dans le meilleur des mondes, il semble que l'union soit refaite, mais dès que les délégués rentrent à Constantinople et qu'ils exposent les termes de l'accord, ils sont arrivés. Alors la question de la primauté du pape, ça soulève immédiatement un tollé général. Et finalement, l'union et les émissaires sont désavoués par la hiérarchie orthodoxe de Constantinople. Les décisions du concile de Lyon sont déclarées nulles et non avenues par les Grecs, et ceci parce que le prétexte invoqué est merveilleux, parce que les délégués avaient été nommés par l'empereur et non pas par le patriarche de Constantinople. Voilà la seule raison pour laquelle on refuse les conclusions du concile. Autant dire que le sort de Constantinople est scellé. Andronique meurt donc en 1341. Lui succède Jean V, paléologue, 1341-1391, qui retourne en personne à Rome pour essayer justement de refaire l'union. Voyez-vous, l'humiliation de cet homme, l'empereur d'Occident, l'empereur d'Orient, qui vient quémander le secours, en quelque sorte, de l'Église d'Occident. Et il arrive à Rome le 21 octobre 1365. Et il vient demander l'aide de l'Occident contre les Turcs. Seulement, il arrive à un très mauvais moment. Il arrive en plein schisme, au moment où les papes et les antipapes se déchirent à belles dents. Et l'antipape vient s'opposer à cette union, en sorte que, en 1391, les négociations sont définitivement interrompues. Et nous allons voir que le siècle prochain, au siècle suivant, au XVe siècle, eh bien, Constantinople sera prise par les Turcs, sans coup férir et sans que l'Occident ne lève le petit doigt pour venir au secours de la chrétienté d'Orient. Ça, évidemment, les Grecs ne l'oublieront pas non plus, jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous voulez, voilà ce qu'on peut dire de ce XIVe siècle extrêmement mouvementé. ce 14e siècle est en même temps un siècle de transition où se mettent en place des mouvements, si vous voulez, qui vont être comme des germes dont on va voir naître les effets dans les siècles suivants, qui va donner deux types de mouvements. Premièrement, la Renaissance, nous l'avons vu tout à l'heure, avec l'humanisme, qui ensuite aboutira à un humanisme de plus en plus déchristianisé au fur et à mesure que le temps passera. Et puis la Réforme, qui pendant un temps va mettre un frein à cette évolution de la Renaissance, tout en profitant des apports positifs du mouvement de la Renaissance, car il y a aussi des apports positifs. Et alors, si vous voulez, là, c'est toute la notion qui a été essentielle au Moyen-Âge, la notion de chrétienté, qui va se trouver remise en question. C'est la fin de la chrétienté. Ou plus exactement, c'est le déclin de la chrétienté, car la chrétienté, eh bien, somme toute, elle subsiste jusqu'à pratiquement nos jours, la notion de chrétienté. Mais la réalité est comme un château branlant à partir de la fin du XIVe siècle. Alors nous allons, la prochaine fois, nous verrons ce qu'a été la chrétienté dans la conception du Moyen-Âge et en quoi, justement, elle est remise en question à la fin de cette période, à la fin du XIVe siècle. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?